chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons cette deuxième série concernant l'évangile de Saint Marc. Plus tard, Dieu voulant, je commencerai l'étude de Saint Jean. Mais pour l'instant, continuons notre série. Nous arrivons à l'étude numéro 13, chapitre numéro 12, et les versets 13 à 17. Chapitre 12 de Saint-Marc, versets 13 à 17, Dieu et César. Mais tout d'abord, pour éviter que je l'oublie, je dois vous dire que je ne pourrai jamais faire ce que je fais sans prier auparavant pour que Dieu le Père, par Jésus-Christ son Fils, m'accorde le Saint-Esprit pour me guider tout au long de ces études. Car c'est au-delà souvent de mes compétences, je dois le reconnaître. Il faut être un peu humble, c'est pas défendu, pour reconnaître qu'on est parfois dépassé par soi-même. C'est mon cas. En plus, plusieurs serviteurs de Dieu de divers pays ont demandé si je permettais qu'ils traduisent certains de ces CD dans leur langue maternelle. Évidemment, bien entendu, j'ai donné mon consentement, ça va sans dire. Aussi, une personne très importante m'a proposé, mais je ne veux pas m'avancer maintenant, je le dirai peut-être prochainement. Nous avons dit Dieu et César. Il est dit dans les versets 13 à 17, ils lui envoyèrent à Jésus ensuite quelques-uns des pharisiens et des hérodiens pour le prendre au piège de ses propres paroles. Ils sont donc venus à lui pour lui dire « Maître, nous savons que tu es véridique et que tu ne crains personne. En effet, tu ne regardes pas à l'apparence des gens, mais tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Payerons-nous ou ne payerons-nous pas? Mais Jésus, pénétrant leur perfidie, leur répondit, « Pourquoi me tendez-vous un piège? Apportez-moi un denier, que je le voie. » Ils lui en apportèrent un. Voyons, de qui est cette effigie? Leur demanda-t-il, et l'inscription. De César, lui répondirent-ils. Alors, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, leur dit Jésus. Et ils restèrent tout interdits de sa réponse. Ils étaient dans l'étonnement. Plus d'une fois déjà, Jésus a échappé à ses ennemis. Cette fois-ci, il croit avoir trouvé un piège infaillible et pour le lui tendre, ils font appel à quelques pharisiens et quelques hérodiens particulièrement habiles à manier les armes de la perfidie. Habituellement, ils sont ennemis, les pharisiens rigoriste et patriote méprise les Hérodiens qui sont, on peut dire, opportunistes et amis des Romains. Ces hommes s'entendent uniquement pour perdre celui qui les gêne les uns et les autres. Ils s'approchent donc et disent à Jésus, en simulant le respect et même l'estime, « Maître, nous savons que tu es véridique et que tu ne crains personne. Tu ne regardes pas à l'apparence des gens, mais tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ? Payerons-nous ou ne payerons-nous pas ? Mais on ne peut ni flatter ni embarrasser Jésus. Pourtant la question est aussi précise qu'insidieuse et même habile. Répondre oui, c'est se discréditer auprès du peuple qui supporte assez mal le joug romain. Répondre non, c'est permettre aux Hérodiens de le dénoncer en haut lieu. Comme toujours, la réponse tombe de ses lèvres avec un « à propos », une simplicité et une vérité qui désarment et déconcertent ces hypocrites trop habiles. Apportez-moi donc un denier, que je le vois. De qui est cette effigie ? Et l'inscription ? De César. Alors, rendez, s'il vous plaît, à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Plus élégamment que jamais, le piège est déchoué. Dieu lui-même a répondu. Désormais, et dépités, ils sont complètement désarmés. Ces hommes s'en vont sans dire un mot. Oui, rendez à César ce qui est à César. Qui est César ? Pour ceux auxquels Jésus s'adressait, aucun doute possible. César, c'est l'empereur qui règne à Rome. C'est l'incarnation même de l'État païen au pouvoir duquel est tombé le peuple élu. Et César sera cela, un pouvoir païen aussi longtemps que Satan pourra séduire les nations. Apocalypse chapitre 20, versets 3 et 8. Oui, aussi longtemps que le pouvoir politique, la puissance économique et la vie culturelle se situeront en marche et en dehors de la volonté divine, parfois même en opposition flagrante avec elle. Aussi longtemps qu'il en sera ainsi, il y aura César et Dieu, parfois même César contre Dieu. Et il en sera ainsi jusqu'à l'avènement du royaume. Ceux qui ne peuvent pas croire et qui n'attendent rien de l'intervention du monde spirituel, rien d'autre par conséquent que ce qui peut être édifié par l'homme avec ses moyens tout humains, ceux-là sont même convaincus qu'il en sera toujours ainsi et que l'État vraiment laïcié peut tout au plus se montrer tolérant à l'égard de la foi et de ses manifestations. De toute façon, pour les hommes d'aujourd'hui, comme pour les contemporains de Jésus, le royaume n'est pas encore venu, et nous ne sommes pas au temps messianique. Il convient donc de reconnaître comme voulu de Dieu et absolument légitime, parce que inséparable de l'ordre politique et social, que l'homme s'est donné en accédant à la vie civilisée. Ainsi sont les diverses institutions humaines, fussent-elles païennes ou pas. Jésus d'ailleurs le dit expressément à Pilate, selon saint Jean chapitre 19 verset 11, « Et les apôtres n'enseigneront pas autre chose. » Notez en particulier Romains chapitre 13 verset 1 à 7 et la première épître de Pierre chapitre 2 verset 13 à 17. Pendant le grand entre-deux de l'histoire, en attendant son aboutissement ultime, il faut donc accepter César et son autorité. En suppliant, ou plutôt en supprimant, l'arbitraire complet et l'anarchie, et en assurant un certain ordre et une certaine justice, il se rend donc nécessaire, l'homme qui pour tout l'essentiel reste soumis à la seule sainte parole du Christ et de Dieu, parce qu'elle est vérité et vie, saura donc avec plus de véritable conscience qu'un autre rendre à César ce qui est à César. Il payera donc l'impôt honnêtement, intégralement, même si l'emploi qu'en fait l'État est parfois critiquable à ses yeux, ou s'il est parfois aménagé en fonction de la fraude du grand nombre. Il se conformera à la législation en vigueur quand bien même certaines lois lui paraîtront inopportunes, imparfaites ou même dangereuses dans leurs conséquences. Il accomplira toute espèce de service, civil ou même militaire, exigé de lui l'État. Pour tout dire, il se comportera ensuite en citoyen exemplaire et s'acquittera comme tel de tous ses devoirs et de ses obligations de toutes sortes, avec plus de conscience et de probité qu'un autre. Mais c'est toujours en fils de Dieu que parle Jésus. S'il reconnaît l'autorité de César, il lui fixe en même temps des limites. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. En définitive, seule l'autorité de Dieu est absolue. Mais alors, qu'est-ce qui est à Dieu? Jésus nous le montre ailleurs, quand en particulier il répond au tentateur dans le désert. Tu adoreras ou tu serviras véritablement le Seigneur ton Dieu. Tu ne rendras de culte qu'à lui seul. Ce qui est à Dieu, c'est donc l'homme en profondeur. C'est l'âme vivante qui, tout au fond de l'homme, témoigne d'une origine et d'une fin éternelle, une parcelle individualisée de l'universelle vie de Dieu. L'homme n'est-il pas en effet par la destinée, appelé à manifester au niveau du monde terrestre ce qui peut l'être de la vie de Dieu, n'est-il pas marqué à son image ? Genèse chapitre 1, verset 27, pour soumettre la terre, régner sur la création qui l'entoure et qui le porte à son expression la plus haute en agissant sur elle selon les exigences de cette image. Quand par conséquent César veut mettre la main sur l'âme elle-même pour se la servir et la modeler à sa façon, l'homme, en bon citoyen, conscient des valeurs qu'il s'agit pour lui de sauvegarder, parce qu'elles font la grandeur d'un état éclairé, l'homme a donc le devoir de dire non. Il se refusera alors à César, parce que César n'est pas son créateur et ne tient pas dans sa main son avenir éternel. Il ne mettra pas son âme dans la main de César. Elle n'est à sa place que dans la main de Dieu, car elle est une parcelle de terre sainte. Elle ne peut être que à Dieu. Il s'en réserve la souveraineté absolue parce qu'il le faut. C'est conforme à la nature profonde des choses. Sans cela, tout serait perdu. Mais il reste bien entendu que le chrétien, quand il refuse son âme à l'État, ne le dessert en aucune façon, ni surtout ne le trahit. Il le sert au contraire, d'une façon plus éclairée. Non seulement il sauvegarde sa propre âme, mais il contribue par là même à sauvegarder celle de la nation à laquelle il appartient et celle de l'humanité. Avant la Première Guerre mondiale, on ne croyait plus guère à la possibilité d'un conflit aigu entre les tenants d'une foi religieuse quelconque et César. Certains États avaient une religion officielle, mais toléraient les autres. Ailleurs, l'État laïque avait instauré une paix de compromis dans la tolérance mutuelle, en faisant à chaque confession ou religion sa place reconnue et légitime, les amenant ainsi à la cohabitation pacifique dans son sein après des siècles souvent d'intransigeance et même de persécution. Mais l'avènement du fascisme et surtout du nazisme et celui plus tard du communisme idéologique athée réveillèrent l'esprit d'intolérance et de persécution. L'État devint totalitaire. Il prétendit asservir l'individu et se l'incorporer en s'emparant de son âme pour la façonner et lui imposer une idéologie officielle destinée à remplacer la religion, ou du moins à vacciner celle-ci contre toute efficacité. Ça s'appelle un lavage de cerveau. De nouveau, le croyant authentique fut amené à tout risquer et à dire non à César dans la pleine conscience de ce que sa foi représentait d'essentiel et d'irremplaçable pour lui et pour le monde. En le faisant d'ailleurs, il ne pouvait oublier, s'il était vraiment chrétien, que César lui-même avait une âme, et que cette âme momentanément très égaré, ne pourrait trouver sa vie, son rassasiement définitif et sa paix que en Dieu. Le Seigneur n'avait-il pas déclaré qu'une fois élevé de la terre, il attirerait tous les hommes à lui? Saint Jean, chapitre 12, verset 32. Mais Dieu laisse l'homme libre. C'est donc à l'homme de faire le premier pas. Je dois, moi, prendre la décision d'accepter d'être sauvé en étant honnête envers moi-même, et je dois donc m'humilier et comprendre que je suis un pécheur perdu et que sans Jésus-Christ, eh bien, j'ai aucun espoir. Ayons donc un instant de prière ensemble, je vous le demande. Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu des patriarches, des prophètes et des saints, notre Dieu et notre Père, donne aux nations de la terre, à notre humanité comme telle, les hommes dont elles ont besoin pour marcher dans la voie de leur vocation et de leur mission véritable, des vrais sacrificateurs, parce que sacrificateurs de leur propre vie sur l'autel du culte en esprit et en vérité. Oui, le culte de l'entière consécration dans la parfaite disponibilité et la grande obéissance en union indissoluble au crucifié ressuscité. Gloire à Dieu, venu pour faire parmi nous non sa volonté, mais ta volonté sainte, ô Père, et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Vrai serviteur, parce que serviteur de tous, dans la communion du serviteur de l'Éternel, Jésus, le Fils de l'homme, venu non pour être servi, mais pour servir, et qui a été au milieu de nous, lui, le Seigneur et le Maître, comme celui qui sert, afin de nous enseigner la vraie justice et la vraie grandeur, et de nous faire réaliser les conditions d'une paix véritable. Oui, qu'il en soit ainsi, Père, à ta gloire, à la gloire du Fils et à la gloire du Saint-Esprit, pour notre salut, notre vie, notre éternel bonheur à tous. Amen. Le chapitre 12, versets 18 à 27, nous parle maintenant des Sadducéens et de la résurrection. Des Sadducéens, ceux qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, sont venus à lui pour l'interroger. Et ils disent, « Maître, voici que ce que nous a prescrit Moïse. Il nous a dit, si le frère de quelqu'un meurt, laissant une femme sans enfant, cet homme épousera la veuve de son frère et lui succédera une postérité. Or, il y avait 7 frères. Le premier prit femme et mourut sans laisser de descendance. Le second alors épousa la veuve et mourut aussi sans laisser de descendance, et de même le troisième, et aucun des 7 ne laissa de descendance. Après eux tous, la femme aussi mourut. À la résurrection, quand ils reviendront à la vie, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Tous les 7, en effet, l'auront eue pour femme. Alors Jésus leur dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur, faute de ne connaître ni les Saintes Écritures, ni la puissance de Dieu? Quand on ressuscite d'entre les morts, en effet, on ne se marie pas et on n'est pas donné en mariage, mais on est comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est des morts et de leur résurrection, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, là où il est question du buisson, en quelques termes, Dieu lui a parlé? Il lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, jamais, mais il est le Dieu des vivants. Vous êtes donc grandement dans l'erreur. Chers amis, voici donc maintenant quelques sadducéens. Ces rationalistes avant la lettre et étaient les humanistes de leur temps. Leur libéralisme religieux, qui frisait souvent l'indifférence, était l'antipode du rigorisme des pharisiens. Ils cultivaient un universalisme invertébré, sans assise ni prolongement spirituel véritable, niant aussi bien toute espèce de résurrection ou de survie personnelle, ainsi que l'existence des anges et même des esprits. La foi d'un prophète comme celui qui sortait de Nazareth ne pouvait que les faire sourire. Hellénisant convaincus, ils étaient imbus de culture gréco-romaine bien plus que de saine tradition ou de spiritualisme prophétique. Les voici donc autour de Jésus. Ils lui apportent une question soigneusement préparée et savourent par avance son embarras. Maître, voici ce que nous a prescrit Moïse. Si le frère de quelqu'un meurt, laissant une femme sans enfant, cet homme épousera la veuve de son frère et lui suscitera une postérité. Or, il y avait 7 frères. Le premier prit femme et mourut sans laisser de descendance. Le second alors épousa la veuve et mourut aussi sans laisser de descendance. Et de même le troisième, et aucun des 7 ne laissa de descendance. Après eux tous, la femme mourut à son tour. À la résurrection, quand ils reviendront à la vie, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car tous les 7, en effet, l'auront eue pour femme. Et une fois de plus, j'admire la réponse de mon maître. Ce n'est pas celle d'un esprit spéculatif ou d'un dialecticien. Non, non, non. C'est la réponse juste, la réponse simple et qui sonne vrai de celui qui sait et qui voit tout. Car Jésus, en effet, s'il vit dans notre monde terrestre, il est le Fils de Dieu, un homme de l'Esprit, un familier du Père et de ses anges. Son expérience de la vie est complète. Il voit le monde total et il sait de connaissance immédiate et certaine, car il est entretenu, il s'est lui-même entretenu avec Moïse et avec Élie. Il a donc été assisté par les anges. La terre ne l'a pas emprisonné, non, non, non. il y vit plus solidement qu'un autre, en y respirant l'air du grand large céleste. Mais oui, n'en déplaise aux sadducéens sceptiques, les morts ressuscitent. La mort les libère pour une vie nouvelle, qui sera dans l'immédiat, celle à laquelle les aura préparé leur vie terrestre. Il y a en effet beaucoup de demeures dans la maison de mon père, dira-t-il à ses disciples, dans la chambre haute. Notez Saint Jean, chapitre 14, verset 2. La mort est en réalité une naissance à la vie du monde spirituel. Le vrai ciel, dans l'immédiat déjà, est pour celui dont la vie a été une vie bien orientée, donc une vie de service en attendant de monter plus haut, pour celui qui n'a pas compris pendant sa vie terrestre. Mais si la personne elle-même, l'individualité, n'est pas dissoute avec la mort et la décomposition du corps, si elle naît au contraire au monde définitif de l'esprit, pour y connaître une promotion lui offrant des facilités nouvelles et un nouvel épanouissement, c'est sous une forme qui implique des possibilités de communion immédiate et universelle, indépendante du temps et de l'espace, est beaucoup plus complète que la communion possible à l'homme ici-bas. Il n'y aura plus en particulier de rapport conditionné par les différences de sexe. Quand on ressuscite d'entre les morts, en effet, on ne se marie pas et on n'est pas donné en mariage, mais on est comme les anges dans les cieux. Oui, on est comme des anges dans les cieux, c'est-à-dire qu'on en a fini avec la chair, soit pour le regretter pendant un temps, c'est le cas des natures qui restent charnelles jusqu'à la mort, or soit de s'en réjouir et de en rendre grâce. La résurrection ne peut pas introduire dans le monde spirituel le corps de chair, car il est transmué et résorbé après la mort par le corps spirituel. Jésus, Marie ou d'autres êtres exceptionnels, tels que Enoch et Élie dans l'Ancien Testament, ou étant alors, comme c'est communément le cas, repris par la terre, où ils se décomposent, ou encore autrement détruits, dévorés, voire même brûlés, de sorte que la résurrection de la chair, si on tient à l'expression, ne signifie pas résurrection charnelle, jamais, car il n'y a de résurrection véritable que spirituelle. Quand exceptionnellement Jésus rappelle des êtres à la vie du corps, ce fut de sa part un acte particulier de compassion humaine pour ceux que la mort venait beaucoup trop tôt. Donc Jésus leur dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur, faute de ne connaître ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Pour ce qui est des morts et de leur résurrection, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, là où il est question du buisson, en quels termes Dieu lui a parlé? Il lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Pauvres Sadducéens, satisfaits de leur supériorité, mais dont la culture sécularisée a fermé l'œil intérieur, ils ne vont pas seulement buter contre la notion pharisaïque et populaire d'une résurrection matérielle ou charnelle. Ils situent en outre cette résurrection, comme l'enseignaient aussi les pharisiens, au grand jour du jugement dernier. Veuillez s'il vous plaît écouter la série de CD « Qu'advient-il après la mort ?» Vous pouvez l'écouter gratuitement sur internet www.bibleexplique.ch. La parabole du riche et du pauvre Lazare est là. Elle est là du reste pour nous apporter la preuve que dans la pensée de Jésus, une pleine conscience plus réelle et plus lucide même que celle de la vie terrestre, fait immédiatement suite à la mort. Notez Saint-Luc, chapitre 16, verset 19 à 31. Prions un instant. Béni sois-tu, ô Seigneur Jésus-Christ, d'avoir mis en évidence pour nous mortels, la vie et l'immortalité par l'Évangile. Que ma chair, consciente de la dignité qui est la sienne ici-bas, se réjouisse d'être comme la matrice d'un être de résurrection, l'homme intérieur et spirituel. Oui, que ma chair tressaille d'une grande allégresse et se fasse chaque jour l'humble servante du Seigneur. À ta gloire, oui Seigneur Jésus-Christ, comme à celle du Père et du Saint-Esprit, un seul Dieu, éternellement béni. Amen. Chers amis, au chapitre 12, oui, chapitre 12 de Saint-Marc, versets 28 à 34, il nous est parlé du plus grand commandement. Un des scribes qui avait entendu leur discussion, voyant que Jésus leur avait répondu, s'avança et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?»« Le premier, répondit Jésus, c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu » est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Deutéronome chapitre 6, versets 4 et 5. Le second est celui-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique chapitre 19, verset 18. Il n'est pas d'autre commandement plus grand que cela. Fort bien, maître, reprit le scribe, tu as eu raison de dire qu'il est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus lui poser de questions. Il semble bien que ce soit sans intention mauvaise, mais bien au contraire, pour s'assurer la vie éternelle, Saint-Luc chapitre 10, verset 25, plutôt que pour embarrasser en quelque sorte Jésus et de le mettre à l'épreuve, comme le suggère un peu notre ami saint Matthieu, chapitre 22, verset 35, que ce scribe ou ce légiste interroge le maître qui a si bien parlé de la résurrection et de la vie après la mort. C'est bien pourquoi il n'est pas loin, a dit Jésus, du royaume de Dieu, comme le lui déclare Jésus qui connaît les cœurs. Pour y entrer tout à fait, il n'aurait que un pas de plus à faire, peu de choses. Au niveau de la raison, il acquiesce déjà à ce que dit Jésus. Il faut maintenant que le cœur et l'esprit acceptent vraiment ce que accepte déjà l'intelligence et que ainsi le double commandement d'amour, qui n'est encore qu'un concept, puisse descendre dans la vie pour la conditionner et s'y actualiser. Et le secret de ce conditionnement nécessaire et de cette actualisation, c'est la porte du royaume, par conséquent, c'est l'amour. Car l'amour seul rend la foi opérante comme elle doit l'être pour que se fasse la volonté divine. L'amour qui me donne à Dieu le Père, par qui tous nous recevons notre vie, selon Actes chapitre 17, verset 28. Oui, c'est bien le chapitre 17, verset 28 de Actes. Et ce don initial conditionne absolument tout le reste. Parce que Dieu est amour, selon la première épître de saint Jean, chapitre 4, verset 8 à 16, vivre, c'est donc aimer. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères et sœurs. Première épître de Johannes, de saint Jean, chapitre 3, verset 14. En définitive, c'est ce que écrit l'apôtre dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Il en est ainsi parce que la foi et l'espérance ne prennent, écoutez bien, elles prennent vie que dans et par l'amour. Car il y a dans le Verbe, dans le Dieu créateur et rédempteur, il y a là une idée de perfection pour chaque homme et pour l'humanité comme telle. Pour la réaliser, il faut donc aimer, aimer dans la foi et dans l'espérance. Aimer verticalement pour recevoir l'eau vive. Alléluia. Aimer horizontalement pour répandre cette eau sur les autres. En effet, quand ma foi s'exerce dans l'amour divin, qui est amour pur, elle ne peut ni s'égarer, ni dégénérer en croyance, c'est-à-dire en croyance toute cérébrale. Bien sûr que non. Elle n'est donc pas dangereuse dans ses effets, tels par exemple la foi d'un Hitler, pour prendre un cas extrême, et elle ne reste pas non plus stérile, telle la foi des pharisiens de tous les temps. De son côté, mon espérance, quand elle procède du même amour, ne saurait être déçue. Le fût-elle même sans foi, que sans foi, elle se ressaisirait pour faire confiance à la toute-puissance divine et à son action providentielle, souverainement sage et bonne. Il s'agit donc pour moi de m'établir journellement dans le pur amour qui émane de Dieu pour l'homme et d'aborder les êtres dans cet amour. Autrement dit, de penser, d'agir et de réagir dans sa vérité, dans sa justesse infaillible et dans sa miséricordieuse justice. C'est bien pour cela qu'il me faut aimer Dieu le premier de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée et de toute ma force. Alors seulement la grâce m'est faite de pouvoir aimer mon prochain comme moi-même, parce que mon prochain et moi, nous serons un dans l'unique amour de l'unique vie véritable, c'est-à-dire celle du Père. Oui, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On peut se demander pourquoi Jésus n'a pas dit « plus que toi-même ». N'est-il pas sur le point de donner sa vie pour les autres ? N'est-il pas en train de donner sa vie pour tous les hommes ? Et n'avait-il pas déclaré à ses disciples ? Vous savez qu'il a été dit aux anciens, mais moi je vous dis, selon saint Matthieu chapitre 5, verset 22, que celui qui le traitera de fou sera passible de la géhenne du feu. Alors Jésus voyait trop juste pour modifier ce qui déjà exprimait la vérité définitive de Dieu pour l'homme. Dans le Verbe divin, Jésus le savait, il y a une idée de perfection pour tous les hommes. Ils sont donc tous d'égale valeur à ses yeux. Ils sont dignes d'être aimés en lui à cause de leur moi véritable et divin. La réplique que les uns et les autres peuvent donner à cette idée de perfection dans leur vie terrestre, ne saurait entamer cette valeur. Dans son fond immuable, elle est au-dessus des contingences humaines et elle reste une espérance de Dieu en dépit de tous les arguments et de toutes les erreurs de l'homme. Nous sommes indissolublement unis dans le Verbe, source véritable de notre vie, par une solidarité sous-jacente à tous nos conditionnements humains. Nous sommes donc dans les autres et les autres sont en nous. C'est donc ensemble, par conséquent, que nous sommes aimés et cela a salut, bien que chacun le soit aussi individuellement, et c'est ensemble que nous devons nous aimer en Dieu. Je dois m'aimer, non pas tel que je suis, mais tel que Dieu me voit. Et je dois aimer mon prochain, non pas pour ce qu'il est, mais pour ce que Dieu veut qu'il soit. Tout cela à cause de notre origine et notre fin commune. Donc, pas de différence. Si je creuse assez la vie, je me retrouve avec tous les autres en Dieu. Je m'aimerai comme eux et je les aimerai comme moi. C'est-à-dire tels que nous sommes en Dieu au départ et à la fin. L'entre-deux ne doit pas nous séparer. Ce n'est que en nous donnant fraternellement la main qu'ensemble nous arriverons à ce niveau d'amour. Il n'y a plus ni juif ni grec. toute espèce de racisme disparaît. Il n'y a plus que l'homme. L'homme que je suis quand je me reconnais dans l'autre. L'homme qui est l'autre quand il se reconnaît en moi. Je ne sais pas si on a le temps de répéter cela parce que c'est tellement important. J'essaye. Nous sommes indissolublement unis dans le Verbe, qui est la source vraie de notre vie, par une solidarité sous-jacente à tous nos conditionnements humains. Nous sommes donc dans les autres et les autres sont en nous. C'est donc ensemble, par conséquent, que nous sommes aimés à salut, bien que chacun le soit aussi individuellement. Et c'est ensemble que nous devons nous aimer en Dieu. Je dois m'aimer, oui, non pas tel que je suis, non, mais tel que Dieu me voit et que Dieu me veut. Et je dois aimer mon prochain, non pas pour ce qu'il est, mais pour ce que Dieu veut qu'il soit. Tout cela à cause de notre origine et de notre fin commune. Donc, pas de différence. Si je creuse assez la vie, je me retrouve avec tous les autres en Dieu. Je m'aimerai comme eux et je les aimerai comme moi. C'est-à-dire tel que nous sommes en Dieu, au départ et à la fin, l'entre-Dieu ne doit pas, je dis l'entre-deux, ne doit pas nous séparer jamais. Ce n'est que en nous donnant fraternellement la main qu'ensemble nous arriverons. À ce niveau d'amour, il n'y a plus juif ni grec. Oui, il n'y a plus que l'homme, l'homme que je suis quand je me reconnais dans l'autre, l'homme que est l'autre quand il se reconnaît en moi. Nous terminons cette étude par la prière, maintenant. Ô Dieu, tu es amour et tu veux que je te connaisse comme Père et parce que tu es notre Père, tu veux que je sois amour moi aussi. Il faut cela pour que je reconnaisse que je ne puis rien par moi-même et que je dois tout recevoir de toi. Car quand je parlerai les langues des hommes et celles des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, quand je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la foi dans sa plénitude, jusque à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour subvenir aux besoins des pauvres, quand je livrerai mon corps même au bûcher, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. En définitive, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Seigneur, je veux être amour en toi. Amen. Chers amis, Dieu voulant, demain matin, l'étude numéro 14 sera « De qui le Messie est-il le Fils ?» En attendant, je répète que on m'a proposé que certains des CD paraît-il un peu hors du commun, certains serviteurs de Dieu, voire même certaines écoles bibliques à l'étranger, désirent de les traduire dans leur langue maternelle. je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Et si je vous dis que je vous aime, ce n'est rien en rapport avec ce que Jésus vous aime, vous, d'un amour au-delà de toute compréhension. Soyez donc aimés et soyez bénis. À bientôt, à demain matin, Dieu voulant. Au revoir, très chers amis.